VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, excellent début de journée en notre compagnie sur VOA Afrique. Au micro, Nicolas Pineau et Michel Joseph. Bonjour Michel.
Bonjour Nicolas.
À la une de notre émission ce matin.
À Bangui, prestation de serment de Faustin-Archange Touadéra, le nouveau président centrafricain.
Liberté provisoire pour l'opposant nigérien Ama Amadou. L'opposition maintient la pression sur le président Mahamadou Issoufou.
L'état de droit, la démocratie, la justice, la séparation des pouvoirs, tout ça a pris un coup terrible. Ceux qui tirent les ficelles semblent avoir tout eu, au détriment bien sûr de l'image de la justice.
Renouvellement du mandat de la MONUSCO pour un an en RDC. Les effectifs de la force onusienne réduits de 1700 hommes.
Arrestation d'opposants camerounais à Yaoundé.
Toute manifestation publique organisée par les partis politiques d'opposition sont systématiquement interdites, dispersées ou donnent lieu à des arrestations comme celle-là.
Aux États-Unis, le directeur de campagne de Donald Trump, inculpé pour avoir agrippé une journaliste.
Et comme tous les matins, vos rendez-vous habituels, la Minute Éco et le Journal des Sports, les éliminatoires de la CAN, le Maroc, premier pays qualifié pour cette CAN 2017. Mais tout d'abord, sur VOA Afrique, le journal.
C'est le grand jour à Bangui. Prestation de serment tout à l'heure du nouveau président Faustin-Archange Touadéra. Plusieurs chefs d'État africains et l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Samantha Power, ont fait le déplacement. Des détails avec Freeman Sipila.
Parmi les invités de marque attendus dans la capitale centrafricaine, le président congolais Denis Sassou Nguesso, médiateur dans la crise centrafricaine, le chef du gouvernement camerounais avec une forte délégation, Hervé Latsou, sous-secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix, des représentants américains, allemands, japonais, chinois, italiens et sud-africains sont arrivés dans l'après-midi à Bangui. À Bangui, les autorités annoncent avoir pris toutes les dispositions pour la bonne réussite de cet événement tant attendu. La sécurité est renforcée dans les rues de la capitale. Le grand stade prévu pour la circonstance était jusqu'à ce soir en plein chantier. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Les Nations Unies vont renouveler ce mercredi pour un an le mandat de la mission en République démocratique du Congo, la MONUSCO. Ce renouvellement s'accompagnera d'un retrait très progressif de ses casques bleus, alors que Kinshasa veut les voir partir rapidement. Le projet de résolution présenté par la France et qui devrait être adopté par le Conseil de sécurité prend note de la recommandation du secrétaire général Ban Ki-moon de réduire de 1700 l'effectif militaire de la MONUSCO. En mars 2015, l'effectif déployé avait déjà été réduit de 2000 soldats.
Actualité congolaise toujours avec cette déclaration de l'ancien gouverneur du Katanga. Sur son compte Twitter, Moïse Katumbi qualifie de simulacre d'élection le vote des gouverneurs de nouvelles provinces remporté le week-end dans sa quasi-totalité par les candidats du pouvoir. Les explications d'Eddie Isango.
Ce simulacre d'élection démocratique ne doit pas nous détourner de la priorité absolue, à savoir la tenue d'une élection présidentielle crédible en novembre 2016, a déclaré M. Moïse Katumbi. L'ex-gouverneur rappelle que le président Joseph Kabila, qui termine son deuxième mandat, ne devra pas se représenter à la prochaine présidentielle. M. Katumbi a fait la déclaration alors que le G7, groupe d'anciens leaders de la majorité au pouvoir, passé comme lui à l'opposition et auquel il s'est rapproché, promet de désigner ce mercredi son candidat pour les scrutins présidentiels. Et c'est M. Katumbi qui est pressenti. Ce dernier soutient que le 19 décembre 2016, M. Kabila, au pouvoir depuis 2001, ne sera plus le président des Congolais et devrait donc organiser sa sortie de manière démocratique et pacifique. Pour les porte-parole du gouvernement Lambert Mende, M. Katumbi est un mauvais perdant. Il devrait plutôt articuler ses griefs devant les instances des recours, a affirmé M. Mende.
La police a interpellé hier une soixantaine d'opposants camerounais à Yaoundé. Ils étaient rassemblés pour dénoncer toute tentative clandestine de modification constitutionnelle de la part du pouvoir pour avancer l'élection présidentielle prévue en 2018. On en reparle tout à l'heure dans la deuxième partie de notre émission.
Grève générale au Tchad. L'appel a été largement suivi dans l'administration mardi à N'Djamena. Aucune audience ne s'est tenue au palais de justice. À l'hôpital général, les employés n'assuraient pas de service minimum. Le mouvement vise à obtenir la libération de 4 responsables de la société civile, dont le secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad. Ils avaient appelé à manifester contre la candidature du président Idriss Déby Itno à un 5e mandat.
Autre contestation, la journée ville morte organisée au Congo-Brazzaville à l'appel de 5 candidats à la présidentielle contre la réélection de Denis Sassou Nguesso. Si les quartiers sud de Brazzaville ainsi que Pointe-Noire et les villes du sud ont été paralysés, dans le centre de la capitale et le nord du pays, favorable au président sortant, les populations ont vaqué à leurs occupations. C'est ce que nous signale notre correspondant à Brazzaville, Ngoélane Goussou.
Liberté provisoire de l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, Amadou, actuellement admis à l'hôpital américain de Paris. Le candidat malheureux au second tour de la présidentielle du 20 mars avait été arrêté en novembre 2015 dans le cadre d'une affaire de trafic de bébés.
La fièvre Ebola en Afrique de l'Ouest ne constitue plus une urgence sanitaire internationale. C'est ce que fait savoir l'Organisation mondiale de la santé. Toutefois, l'OMS met en garde contre le risque que les survivants de cette maladie infectent leur partenaire sexuel. Le point avec Félix Yepa-Sizembo.
L'annonce de l'OMS intervient alors que la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone ont connu une résurgence du virus Ebola après avoir chacun déclaré la fin de l'épidémie. De nouveaux cas ont été détectés, souvent quelques heures seulement après la fin officielle de l'épidémie. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest avait fait plus de 11 000 morts en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. La mesure prise mardi par l'OMS met fin à la déclaration d'urgence sanitaire internationale qui avait suscité une vive controverse. Une enquête de l'agence Associated Press a révélé que l'agence onusienne avait retardé cette déclaration pour des raisons économiques, politiques et religieuses. Alors que l'OMS tourne la page de l'Ebola, elle se trouve maintenant confrontée au virus Zika qui suscite une vive inquiétude dans les Amériques.
Le chef de la diplomatie algérienne demande à Paris de soutenir le processus d'autodétermination du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole annexée par le Maroc en 1975. Ramtane Lamamra a exprimé cette requête lors d'une conférence de presse commune avec son homologue français Jean-Marc Ayrault en visite à Alger.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, la police belge tente toujours de mettre la main sur le principal suspect en fuite une semaine après les attentats qui ont fait 32 morts à Bruxelles, selon un dernier bilan revu à la baisse par les autorités. Quant à l'aéroport de Bruxelles, frappé par les explosions, il restera encore fermé ce mercredi.
Plus de 200 arrestations dans la province du Pendjab au Pakistan dans le cadre de l'enquête sur l'attentat suicide qui a coûté la vie à 73 personnes à Lahore le jour de Pâques. Lionel Gaïma.
Suite à l'attentat de dimanche, la police, l'armée et les services du renseignement ont lancé une vague d'opérations à Lahore, ville d'origine du Premier ministre Nawaz Sharif et capitale du Punjab, province gouvernée par son frère Shahbaz. Selon le ministre provincial de la Justice, Rana Sanaullah, plus de 5000 personnes ont été fouillées et interrogées et quelques 216 ont été placées en détention dans le cadre de l'enquête. D'autres opérations étaient en cours contre des activistes religieux et des extrémistes, a ajouté le ministre. Le Jamaat ul Ahrar, branche de talibans pakistanais, avait revendiqué l'attentat de dimanche, disant qu'il visait la minorité chrétienne. Les mesures de sécurité ont été renforcées autour de 550 églises du Punjab, d'après le ministre Sanaullah.
En Syrie, les troupes du régime de Bachar el-Assad ont encore gagné du terrain face au groupe État islamique dans le centre de la Syrie après la prise de Palmyre. À Genève, quelques 90 pays sont attendus aujourd'hui pour une conférence parrainée par l'ONU consacrée à l'accueil des réfugiés syriens. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, doit prononcer le discours d'ouverture.
Retour aux États-Unis où le directeur de campagne du candidat républicain Donald Trump a été inculpé mardi pour avoir agrippé une journaliste qui tentait de poser une question au candidat. Les détails avec John Linden.
Wow! Corey Lewandowski, mon directeur de campagne, un homme très respectable, vient d'être inculpé pour agression d'une journaliste. Regardez les vidéos. Il n'y a rien, a écrit sur Twitter Donald Trump. L'entourage du favori des primaires présidentielles républicaines conteste l'emploi du mot « arrestation », ce qui pourrait s'expliquer par le fait qu'il s'est présenté de lui-même au commissariat, selon le Palm Beach Post. Mais il a confirmé l'inculpation tout en clamant l'innocence du plus proche conseiller du milliardaire américain. Michel Fields, alors journaliste pour le site conservateur Breitbart, suivait Donald Trump pour lui poser une question quand elle dit avoir été violemment tirée par l'avant-bras par Corey Lewandowski.
C'est la fin de ce journal sur VOA Afrique. Tout de suite, on retrouve la Minute Éco qui nous est présentée ce matin par Nathalie Barge.
La production du poivre de Penja, du nom de l'épice cultivée dans la région du littoral camerounais, a atteint 300 tonnes en 2015, en nette progression depuis 3 ans. Selon le groupement des producteurs de Penja, 60% de la production a été consommée localement, le reste ayant été exporté en Europe. L'indication géographique protégée de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a été attribuée à cette épice en 2013. Ouverture ce mercredi du Forum d'affaires Africa North Carolina qui se déroule jusqu'à samedi en Caroline du Nord aux États-Unis. L'an dernier, la Chambre de commerce Africa-USA a élargi ses membres aux entreprises canadiennes et brésiliennes pour les aider à former des partenariats avec des entreprises africaines. Ce forum est organisé avec l'Académie diplomatique africaine créée en 1999 au Sénégal. La Commission économique pour l'Afrique et l'Union africaine abritent la semaine consacrée au développement de l'Afrique du 31 mars au 5 avril à Addis Abeba. Au programme notamment les objectifs de développement durable, la migration, l'industrialisation et l'intégration régionale. Les ministres des Finances et de l'Économie discuteront autour du thème choisi, je cite, « vers une approche intégrée et cohérente pour la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de l'agenda 2063 et des objectifs de développement durable ».
Merci Nathalie, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, tout de suite le journal des sports. Le journal des sports qui nous est présenté ce matin par Tatiana Mosso. On va évidemment commencer, Tatiana, par cette grosse actualité footballistique sur le continent. La quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2017 qui s'est achevée hier.
C'était le super mardi avec 15 matchs dans le groupe M. L'Afrique du Sud fait match nul face au Cameroun 0-0. Même scénario pour la Gambie face à la Mauritanie dans le groupe G. L'Égypte, elle, bat le Nigeria 1-0. Match nul aussi dans le groupe D pour l'Ouganda et le Burkina. Et le point sur le groupe B, 2-0 pour l'Angola face à la RD Congo. Dans le groupe A, le Libéria écrase 5-0 Djibouti alors que le Togo d'Emmanuel Abdebayor affiche 0-0 contre la Tunisie. Entre-temps, le Rwanda bat l'île Maurice 5-0 aussi. La Guinée, elle, s'impose sur le terrain du Malawi 2-1. L'Algérie a concédé le nul contre l'Éthiopie 3-3. Et le Sénégal s'est imposé 2-1 contre le Niger, tout comme le Lesotho 2-1 face aux Seychelles. Le Burundi s'est imposé en Namibie 3-1. Et enfin, égalité pour la Côte d'Ivoire et le Soudan 1-1.
Autre compétition, ce sera en 2018, la Coupe du Monde en Russie. D'autres matchs étaient également au programme hier.
C'est l'Australie, l'Iran, la Chine, la Syrie, l'Irak, les Émirats arabes unis et l'Ouzbékistan qui se sont imposés pour compléter mardi les rangs des qualifiés pour la troisième phase des éliminatoires asiatiques.
On revient sur le continent européen pour parler de la série de matchs amicaux qui avait lieu hier.
Le Portugal a battu la Belgique 2-1 en match amical préparatoire à l'Euro 2016, mardi à Leira au Portugal. L'Islande, elle, a battu la Grèce 3-2 en match amical toujours. Et la Suède et la République tchèque font match nul 1-1. L'Albanie, futur adversaire de la France au prochain Euro 2016, a battu le Luxembourg 2-0 en match amical. Et enfin, la Bosnie bat la Suisse 2-0.
Et en Amérique du Sud, avec un 50e but de Lionel Messi en sélection, l'Argentine a facilement battu la Bolivie 2-0 à Cordoba en match éliminatoire pour le Mondial 2018. À Barinas, le Chili qui bat le Venezuela 4-1 lors de cette 6e journée des qualifications de la zone Amérique du Sud. Et puis la Colombie qui domine l'Équateur 3-1. On va parler tennis également, tournoi de Miami. Le numéro 1 mondial et double tenant du titre Novak Djokovic s'est qualifié pour les quarts de finale en battant l'Autrichien Dominic Thiem 6-3, 6-4. Enfin la NBA, le championnat de basket nord-américain. Cette nuit, Chicago s'impose sur le parquet d'Indiana 98-96. Carton d'Orlando 139-105 face à Brooklyn. Charlotte domine Philadelphie 100-85. Et défaite d'Oklahoma City 82-88 à Détroit. C'était le journal des sports avec Tatiana Mosso.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission. Partons pour le Cameroun où la police a interpellé hier une soixantaine d'opposants rassemblés à Yaoundé pour dénoncer toute tentative clandestine de modification de la constitution de la part du pouvoir afin d'avancer l'élection présidentielle prévue en 2018. John Lydon a joint à Yaoundé Christophe Bobiokono. Il est membre de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés.
La police très tôt a occupé le siège du MRC, le parti du professeur Maurice Kamto, qui devrait abriter cette conférence-là. Parce que l'autorité administrative estime que c'est une réunion publique qui devrait être déclarée et qui ne l'a pas été. Donc c'était une façon d'interdire la réunion. Et comme les personnes sont arrivées et ne pouvaient pas avoir accès aux locaux du parti en question, il y a eu un attroupement sur la voie publique. Et après la déclaration qui a été faite sur la voie publique par les partis politiques concernés et les échanges avec les journalistes, la police a sauté sur... Les personnes présentes ont été arrosées au canon à eau et toutes les personnes qui ont été interpellées ont été conduites au commissariat central des renseignements généraux et elles ont été progressivement auditionnées et libérées progressivement.
Est-ce que ces interpellations ont quelque chose à voir avec les appels par... les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais invitant le président Biya à se représenter? Est-ce qu'il y a un rapport?
Je crois qu'il y a un rapport. D'abord parce que les leaders des quatre formations politiques dont je viens de parler demandent une révision du code électoral. Donc c'est pour dire que s'il y a élection anticipée, il faudrait bien que les règles du jeu soient revues de manière à ce que le scrutin soit libre, transparent et équitable.
Quelle est la réaction des leaders d'opposition, notamment des partis concernés ici?
J'ai pu voir les leaders de toutes ces formations politiques, ceux qui étaient présents à la fameuse conférence de presse, qui ont décidé d'aller au commissariat et qui sont restés au commissariat. Et ils étaient, me semble-t-il, décidés à y rester tant que le dernier de leurs militants n'avait pas été libéré.
De manière générale, au-delà de ces arrestations et de ces appels à candidature au président Biya, quelle est la nature du climat social en ce moment au Cameroun?
En tant que membre de la Commission nationale des droits de l'homme, je me sens préoccupé par la question de la gestion des réunions publiques et des manifestations publiques où on a l'impression que toute réunion ou toute manifestation publique organisée par les organisations de la société civile ou par les partis politiques d'opposition sont systématiquement interdites, dispersées ou donnent lieu à des arrestations comme celle-là, alors que les regroupements du parti au pouvoir se tiennent sans problème.
Christophe Bobiokono de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés du Cameroun.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Parlons à présent des difficultés de financement qui mettent en danger la vie des réfugiés maliens au Burkina Faso. C'est l'avertissement du Programme alimentaire mondial et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le PAM et le HCR, qui préviennent que si de nouvelles contributions ne sont pas reçues d'urgence, 31 000 réfugiés maliens risquent d'être privés d'assistance alimentaire durant les trois prochains mois. Les deux agences appellent à une aide immédiate de l'ordre de 2,5 millions de dollars. Jacques Aristide a joint Jean-Charles Dehi, le représentant du PAM au Burkina Faso.
Nous avons depuis un certain temps un manque de ressources, ce qui fait que nous sommes en train de perdre tous les acquis en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et cela nous préoccupe beaucoup puisque actuellement, dans le camp des réfugiés, nous sommes dans un contexte où la période de soudure commence au Burkina Faso. Et ces réfugiés dont nous parlons sont exclusivement concentrés dans des camps et dépendent également de l'assistance alimentaire. Donc ils n'ont aucun mécanisme de survie positif, on peut dire. Et ne pas les assister actuellement, ça veut dire qu'ils vont faire recours à des mécanismes de survie très très négatifs, en s'endettant, en faisant recours à des solutions dont ils n'auront certainement pas la réponse dans l'immédiat.
Cette situation peut-elle être réglée? Comment le PAM compte-t-il s'y prendre?
Pour satisfaire les besoins des trois prochains mois, nous avons urgemment besoin de 2,5 millions de dollars de 2,5 millions de dollars américains pour apporter aux réfugiés maliens l'assistance dont ils ont besoin pour leur survie. Aussi, il est très important de noter que la majorité des bénéficiaires, la plupart sont composés de femmes et d'enfants, donc dans un état très, très, très critique.
2,5 millions de dollars américains, une somme qui ne paraît pas énorme. Cela ne devrait pas être difficile pour lever un tel fonds, n'est-ce pas?
Non, cela ne devrait pas, dans les conditions normales. Mais les bailleurs de fonds estiment qu'actuellement, avec les crises mondiales en Syrie, au Yémen, en Libye, etc., toutes les attentions sont concentrées vers ces pays-là. Et donc, nous sommes en train de subir maintenant les conséquences de cette négligence internationale, ce qui fait que les personnes qui sont dans le besoin au Burkina Faso n'ont pas besoin de grandes quantités d'argent pour pouvoir sauvegarder les acquis et puis progresser éventuellement. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas beaucoup d'argent d'un point de vue global, mais pour nous, aujourd'hui, cet argent permettrait de sauver des vies.
Quels sont ces bailleurs de fonds exactement auxquels le PAM fait appel?
Nous avons des contributions de pays donateurs très, très généreux, tels que les États-Unis. Donc, leur contribution arriverait peut-être vers fin juin, début juillet. Nous avons le Canada qui vient de réagir également. Donc, nous avons quelques bailleurs de fonds qui nous tendent la main pour le moment. Mais ce n'est vraiment pas suffisant pour pouvoir combler le grand vide que nous sommes en train d'enregistrer actuellement dans notre pipeline. Cela nous inquiète beaucoup.
Jean-Charles Dey, représentant du PAM au Burkina Faso.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, coup de projecteur sur le recrutement des jeunes par des groupes djihadistes. En Afrique, plus de 40 millions de jeunes sont des recrues potentielles de terroristes, d'après l'ONU. Pourquoi des jeunes se laissent-ils tenter par le terrorisme? Quelles sont les armes de recrutement de ces mouvements radicaux? Comment contrer un tel recrutement? Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
La crise burundaise. L'Union européenne envisage d'accentuer la pression sur le président Pierre Nkurunziza en réduisant le financement des quelques 5500 soldats burundais de la mission de l'Union africaine en Somalie, la MISOM. Pour analyser l'impact qu'aurait une telle mesure, Timothée de Langmaille a joint à Bruxelles Emmanuel Klimis, chercheur à l'Université Saint-Louis de Bruxelles.
La solde des militaires qui sont déployés en Somalie dans le cadre de cette opération de maintien de la paix des Nations Unies. Et donc c'est un budget de l'Union européenne qui paye cette solde. Cette solde s'élève à peu près 1 000-1 200 dollars américains par personne et par mois. Et le fonctionnement en Burundi, ça dépend un peu d'un État à l'autre, mais le fonctionnement en Burundi, c'est que sur ce millier de dollars américains, il y en a 800 qui atterrissent, en tout cas en théorie, dans la poche des différents militaires déployés sur place, et environ 200 qui sont prélevés par le gouvernement burundais. La proposition de l'Union européenne, c'est donc pas de supprimer la solde des militaires qui sont déployés sur place. Là, l'effet serait quand même relativement déstabilisant. Ça veut dire qu'on aurait plus de 5000 militaires armés et entraînés qui se retrouveraient non payés. Mais ce que propose l'Union européenne, au contraire, c'est de supprimer la partie de cette solde qui est perçue par le gouvernement burundais.
Dans ce cas, est-ce que le gouvernement burundais ne pourrait pas être amené à rappeler son contingent en Somalie?
Ça n'est pas nécessairement ce que souhaite le gouvernement burundais. Il ne faut pas perdre de vue que le fait d'envoyer des militaires en Somalie a été un moyen pour le gouvernement burundais de pacifier ses relations avec l'armée, de faire en sorte que des militaires qui, vous le savez, dans des pays en situation de crise, leur permettent d'être satisfaits, quoi, d'obtenir quelque chose dans la situation de crise actuelle. Ça a permis aussi, il y a une série d'études qui l'ont montré ces dernières années, d'éloigner de Bujumbura une série de hauts responsables militaires qui ne sont pas nécessairement en accord avec l'ensemble des décisions du gouvernement, mais qui, à travers le commandement qu'ils ont reçu en Somalie, ne se retrouvent pas dans le jeu politique et diplomatique au sein même des discussions au Burundi. Rappeler ces troupes au Burundi, ce serait aussi un aveu d'impuissance face à cette situation. Ce serait reconnaître que le Burundi n'a plus cette capacité, ce qui est un symbole extrêmement important auquel, à mon sens, le gouvernement burundais renoncerait avec énormément de réticence.
Emmanuel Klimis, chercheur à l'Université Saint-Louis de Bruxelles.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos,
et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
Dernière escale en République démocratique du Congo, à Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu, où trois incendies meurtriers se sont déclarés en l'espace d'une semaine et plus d'une cinquantaine d'habitations ont été calcinées. Les familles qui ont été victimes de ces incendies ont tout perdu. On fait le point sur cette situation avec notre correspondant à Bukavu, Ernest Muero.
Il est 17h, heure locale à Bukavu le lundi des Pâques, lorsque le ciel s'illumine du coup des flammes d'un brasier gigantesque qui dévore maison après maison sur son passage. Au total, une quarantaine d'habitations prennent feu progressivement sur avenue Paysage 2 en commune d'Ibanda. Selon des témoins, le feu est parti d'une maison en planche avant de se répandre dans le reste de l'avenue, ravivé par une ligne électrique moyenne tension touchée par le flamme impitoyable. Les victimes sont inconsolables. Témoignage.
C'est vraiment un désastre. Moi-même, je suis frappé avec tous mes enfants. J'avais trois petites maisonnettes ici, mais jusque-là, il n'y a rien. Parce que nous sommes dehors, sans aucune assistance. On ne sait pas si assistance y aura ou quoi.
Malgré les secours du camion anti-incendie de la mairie de Bukavu et celui des casques bleus de la MONUSCO qui peinent à s'effrayer un chemin le long des maisons construites, l'usine juxtaposée aux autres sur cette avenue, les flammes sont impitoyables. Des centaines de personnes se retrouvent ainsi sans abri après que la veille, le 27 mars, sur avenue Mahenge, à environ 10 autres maisons aient connu les mêmes sorts à moins de 500 mètres de là. Mais pour les deux sites d'incendie, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Si les autorités municipales évoquent les constructions anarchiques et la promiscuité comme facteurs qui favorisent pareille catastrophe à Bukavu, la société civile estime que l'État devrait sécuriser l'intérieur de la province pour éviter les exodes ruraux qui créent le surpeuplement de la ville de Bukavu. Descartes Mpongé, président du bureau de coordination de la société civile au Sud Kivu.
Mettre les conditions minimales de sécurité au niveau de nos territoires. Et personne ne peut envier de venir vivre à Bukavu. Tous ceux qui viennent ici construire dans la promiscuité, ce sont des déplacés, de l'insécurité, les gens qui fuient la persécution des groupes armés. En tête, les FDLR.
Pour rappel, il y a quelques jours, une dizaine de maisons ont été incendiées à l'essence Major Vangu, toujours en commune d'Ibanda. Au point que cette question d'incendie devient un vrai mystère pour plus d'un Bukavien. Plusieurs familles sans assistance passent leur nuit à la belle étoile, ne sachant à quel sens se vouer. Ernest Mouiro, Bukavu, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h dans Universel. Au menu, International Music, Comédie, Country Music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Et Roger, que vous retrouvez tous les soirs 20h, temps universel en direct vidéo sur notre page Facebook VOA Afrique. Quelques notes de musique avant de se quitter, on va écouter le groupe Coldplay qui chante Adventure of a Lifetime. S'achève Le Monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Michel Joseph, Nicolas Pinault à la présentation. On va vous remercier d'avoir été en notre compagnie. On va faire un grand coucou à tous ceux qui nous écoutent du Sénégal à la Guinée en passant par le Burundi et le Rwanda. Merci à tous. Retrouvez-nous sur voaafrique.com.